France Info.
Et à la une de ce 10 décembre, le PS qui revendique donc une victoire après l'adoption du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée hier soir. C'est lui qui a obtenu la suspension de la réforme des retraites, mais il est très critiqué par une partie de la gauche. À la une également, le président ukrainien qui se dit prêt à de nouvelles élections alors que les États-Unis de Donald Trump accentuent encore la pression sur lui. 100 euros pour s'offrir une toile de Picasso, une loterie va être lancée pour financer la recherche contre Alzheimer. Et puis l'OM s'est fait peur, mais s'impose 3-2 en Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise. Tout s'est joué à 13 voix d'écart. L'Assemblée nationale a adopté hier soir en seconde lecture le budget de la Sécu. Il reste encore un passage au Sénat et un nouveau vote à l'Assemblée. Mais selon toute vraisemblance, eh bien, ce texte sera la semaine prochaine adopté définitivement. Sébastien Lecornu et son gouvernement ont donc visiblement réussi à convaincre le PS, notamment, qui a voté pour ce budget et qui revendique donc une victoire. Elia Bergel, les socialistes estiment avoir engrangé suffisamment d'avancées.
Oui, et dans la foulée du vote, le PS vient faire le service après-vente.
Nous avons suspendu la réforme des retraites.
Le chef des députés socialistes Boris Vallot explique pourquoi son parti a voté pour le budget de la Sécu alors qu'il est dans l'opposition.
Il y avait le gel des pensions, il n'en est plus question. Il y avait le gel des minima sociaux, il n'en est plus question.
Le pari semble réussi pour le PS qui a négocié la suspension de la réforme des retraites avec le Premier ministre en échange de la non-censure des socialistes. Ça passe grâce à une alliance baroque entre le PS, une partie des soutiens de Sébastien Lecornu, sans oublier l'abstention des écologistes. Victoire du Parlement, salue Marc Fesneau, le chef des députés Modem.
On va saluer tous ceux qui ont fait le pari de la confiance, du compromis, du dialogue.
Mais chez les opposants au texte, ce vote passe très mal. La députée Mathilde Panot dénonce une trahison du PS.
Changement d'alliance du Parti Socialiste qui décide donc de rejoindre le camp des soutiens au gouvernement.
Avec ce vote, les socialistes assument de rompre encore plus avec LFI dans l'espoir que cette émancipation porte ses fruits lors des municipales l'an prochain.
Merci Elia Bergel et nous allons revenir longuement dans moins de 10 minutes sur France Info sur cette adoption en seconde lecture du projet de budget de la sécurité sociale avec l'analyse du service politique de France Info et celle du politologue Christophe Boutin. Les Ukrainiens vont-ils retourner aux urnes depuis le début de la guerre et l'instauration de la loi martiale? Ce n'est pas possible, mais voilà que le président Zelensky se dit désormais prêt à organiser de nouvelles élections. C'est une réponse à Donald Trump qui à nouveau à Washington a laisser entendre que le président ukrainien n'était plus légitime.
Je demande que les députés de notre faction, en principe nos parlementaires, préparent des propositions législatives concernant la possibilité de modifier les bases législatives et la loi sur les élections pendant la loi martiale. Préparez-moi cela. Je serai en Ukraine demain. J'attends des propositions de la part de nos partenaires, j'attends des propositions de la part de nos députés et je suis prêt à avancer les élections.
Volodymyr Zelensky qui répond donc aux critiques de Donald Trump qui n'a pas non plus été tendre avec l'Europe hier. Le président américain estime que notre continent se délabre à cause de certains de ses dirigeants qu'il qualifie de stupides et d'une politique migratoire trop, je cite, politiquement correcte. C'est un nouveau drame de la guerre au Proche-Orient. Deux petits garçons de 8 et 10 ans qui ramassaient du bois sont morts après des tirs de drones israéliens à Gaza, à proximité de la ligne jaune qui sépare la zone qui est encore administrée par le Hamas de celle occupée désormais par l'État hébreu. Cette limite, elle est très floue et souvent, l'armée israélienne y tire sans sommation. Thibault Lefebvre, avec Ferial Abdou à Gaza, vous avez pu recueillir le témoignage de leur maman.
C'était un samedi matin, il y a 10 jours. Fadi, 8 ans, et son grand frère Jouma, 2 ans de plus, partent chercher du bois. C'est une des tâches qui leur est assignée par leur père, contraint lui de se déplacer en fauteuil roulant. 20 minutes après, une violente explosion retentit. C'est la maman, Alal, qui raconte.
Quand j'ai entendu le boum, j'ai pris le bébé et je me suis précipitée dehors. Quand j'ai vu leur corps étendu sur le sol, j'ai prié Dieu. Nous avons porté leurs dépouilles et nous les avons déposées sur une planche de bois. Que Dieu leur apporte la paix. Mes fils nous ont tellement aidés de leur vivant.
Fadi et Jouma sont morts après une frappe de drone. À Bani Souaïla, c'est à l'est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza et à proximité des positions israéliennes. 2 millions de Palestiniens vivent sur moins de 50% du territoire initial de l'enclave. Et pour beaucoup d'entre eux, comme Hidaya, leur ancienne maison est proche de cette ligne de démarcation qui n'est pas clairement matérialisée.
La journée, je vais chercher des affaires chez moi, puis je reviens le soir dormir en sécurité chez ma sœur.
Les déplacements sont très dangereux, mais je n'ai pas le choix.
Cette ligne jaune pourrait devenir la nouvelle frontière à Gaza. C'est en tout cas le sens des déclarations le week-end dernier du chef d'état-major israélien, Eyal Zamir.
Et solliciter l'armée de l'État hébreu évoque, après la mort de ses deux enfants, la présence de deux suspects à cet endroit-là. Ils auraient traversé la ligne jaune et auraient été éliminés parce qu'ils menaçaient, selon un des porte-parole de l'armée, les troupes sur place. Les atteintes à la laïcité à l'école en France sont en baisse de 10% depuis la rentrée 2025 par rapport à la même période lors de la rentrée 2024. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Il assure que la laïcité est la plus forte à l'occasion du 120e anniversaire hier de la séparation des églises et de l'État en 1905. Deux victoires pour les clubs de Ligue 1 engagés en Ligue des Champions. Hier soir, Monaco s'est imposé 1-0 face aux Turcs de Galatasaray. Et puis Marseille aussi, en déplacement à Bruxelles. Troisième victoire pour l'OM qui a battu l'Union Saint-Gilloise 3-2. Nicolas Perronnet, ce n'était pas de tour pour les Marseillais, ne sont pas passés loin d'une cata.
Savouré après, oui, mais pendant, pas trop. Avoue Malik, ce supporter de l'OM a traversé la France pour vivre une victoire en apnée.
Oui, j'ai eu peur, bien sûr que j'ai eu peur. J'ai eu très peur même.
La trouille de la remontada belge pendant 25 minutes, alors que l'OM menait de 2-2. Marseille finalement sauvé par l'arbitrage vidéo, 2 fois, dont une pour une question de millimètre, puis par un arrêt miraculeux de son gardien. Hier soir, la chance avait choisi son camp, reconnaît le capitaine Pierre-Emile Højbjerg.
Il y a des moments dans la saison où je crois qu'à la fin, on a été un peu unlucky. Et peut-être, tu peux dire aujourd'hui, on est un peu lucky. Chanceux. Il faut aussi dire merci et voilà, 3 points.
3 points plus 6 qui font 9. Et voilà donc l'OM totalement relancé. De retour à sa place, plutôt, estime le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia.
Les équipes qu'on regarde en haut, c'est les gros poissons d'Europe. Donc c'est un signe qu'on est en progression. C'est un signe qu'on est en train de bien faire les choses, donc il faut rester dans cette dynamique-là.
Car 9 points pourraient ne pas suffire, il en faudrait dans l'idéal un 10e à décrocher en janvier face à Liverpool ou à nouveau en Belgique, cette fois du côté de Bruges.
L'OM qui est donc 16e de la phase de Ligue ce matin et qui peut encore espérer continuer l'aventure européenne. À suivre aujourd'hui sur France Info, le déplacement du Paris Saint-Germain qui sera à Bilbao. Christine Peña, est-ce que vous aimeriez accrocher un Picasso dans votre salon?
Oui, alors, j'adorerais.
Pas dans votre budget, mais ouais, je vous propose.
Mais j'en ai fait dessiner par mon fils.
Oui, mais là, je vous propose
pas.
Un bon plan pour avoir un vrai. La Fondation Recherche Alzheimer lance aujourd'hui une grande loterie. Elle propose 120 000 billets en vente à 100 000 euros. Le ticket gagnant remportera un tableau de Picasso d'une valeur d'1 million d'euros. Et tout cet argent, Solène Lehen, récolté, il servira à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Tout cela avec la bénédiction des héritiers du peintre.
C'est en 1941, pendant la guerre, que Pablo Picasso peint ce tableau intitulé « Tête de femme », un portrait de l'artiste Dora Maar, sa maîtresse. Olivier Wiedmayer Picasso, le petit-fils du peintre.
L'œuvre qui est ici est une œuvre qui représente à la fois une femme qui a été auprès de lui, mais c'est aussi une œuvre qui représente les couleurs de l'époque. On est dans un jeu de gris, de marron, de noir, qui est extrêmement fort. En tout cas, lorsqu'on rentre dans la pièce, il n'y a aucune hésitation, c'est une œuvre de Pablo Picasso.
Comment se déroule cette loterie ? La Fondation Recherche Alzheimer achète le tableau à une galerie d'art pour environ 1 million d'euros, un prix caritatif selon elle. Elle espère ensuite vendre en France et dans le monde 120 000 billets de loterie à 100 euros chacun, soit 12 millions d'euros. Le docteur Olivier Deladoucette, président de la Fondation Recherche Alzheimer.
Vous êtes, quoi qu'il arrive, gagnant, car ou vous avez la chance de gagner cette œuvre incroyable, ou vous gagnez parce que vous faites avancer la recherche sur cette maladie qui concerne toutes les familles de France. On a besoin de soutenir cette recherche qui ne l'est pas suffisamment.
Les tickets ne sont pas défiscalisables car ce ne sont pas purement des dons. Ils sont en vente sur le site unpicasso100euros.com.
Et le tirage au sort aura lieu le 14 avril prochain. Merci beaucoup Solène Lehen. Et puis Christine, demandez à votre fils peut-être de donner une œuvre pour la Fondation Recherche Alzheimer. On ne sait jamais, peut-être pas 12 millions d'euros, mais peut-être... quelque chose de précieux tout de même pour la recherche. Allez, un petit coup d'œil à votre météo, Christine Peña, avec ce soleil qui revient, dites donc, par la Bretagne.
Par la Bretagne, oui, grand beau temps, mais alors il va falloir attendre cet après-midi. Un ciel tout bleu, ça sera un peu plus mitigé dès qu'on entre à l'intérieur du pays, entre les Pays de la Loire, Paris également, les Hauts-de-France, avec toujours un risque d'averse, mais un ciel qui s'éclaircit. Et puis on aura toujours ce bandeau pluvieux qui va du sud-ouest au nord-est. Le beau temps persiste également sur les Alpes, à l'est du Rhône en fait, et sur la Corse aussi. Pour les températures ce matin, on a un petit 5 à Mulhouse quand même, 9 à Millau, 12 du côté de Lille et de Paris, 13 à Lyon. Le plus doux, c'est avec 14 degrés. Il y a bataille là entre Bayonne et Toulon.
Toulon, ah ben c'est bataille entre nous deux, j'ai l'impression. Bon, allez, on vous retrouve juste avant 5h30. Merci Christine Peña, 5h10.